Parole du dimanche.
Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors, Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d'un seul coup. Je n'aurai pas à m'y prendre à deux fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» David prit la lance et la gourde d'eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Pour commencer, il faut se rappeler le contexte. Saül fut le premier roi du peuple d'Israël vers 1040 avant Jésus-Christ. Il était beau. Il était dans la fleur de l'âge. Les textes disent que nul parmi les Israélites n'était plus beau que lui. De l'épaule et au-dessus, il dépassait tout le monde. Il était fermier, originaire d'une famille simple, dans la petite tribu de Benjamin. C'est Dieu qui l'avait choisi. Et il avait chargé le prophète Samuel de le consacrer comme roi. Vous vous souvenez que Samuel avait renâclé parce qu'il se méfiait de la monarchie en général. Mais il avait bien fallu obéir à Dieu et Saül est donc devenu roi d'Israël. Enfin, le peuple était comme tous les autres, il avait un roi. Mais après un bon début, Saül donna malheureusement raison aux pires craintes de Samuel. Son bon plaisir et l'amour du pouvoir et de la guerre l'emportèrent sur la fidélité à l'Alliance. Ce fut tellement grave que sans attendre la fin du règne de Saül, Samuel, sur l'ordre de Dieu, envisagea la succession. Il choisit déjà le futur roi, et ce fut David, le petit berger de Bethléem, le 8e fils de Jessé. Écuyer du roi Saül, il fut formé à la cour, et il devint peu à peu un remarquable chef de guerre dont les succès se racontaient partout. Un jour, par malheur, Saül a entendu la chanson qui courait dans les chaumières. Je vous la donne. Saül a tué des milliers, mais David a tué des myriades, c'est-à-dire 1000 fois plus. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Saül, d'abord enthousiaste, conçut bientôt d'affreux soupçons et une jalousie féroce pour ce petit prétentieux qui ne pensait certainement qu'à le détrôner. Une jalousie telle qu'il en devint fou. Et David dut s'enfuir à plusieurs reprises pour lui échapper. Mais contrairement aux soupçons de Saül, les récits notent à loisir que jamais David ne manqua de loyauté à son roi. Le choix que Dieu avait fait de Saül en son temps était trop précieux à ses yeux. Dans l'épisode qui nous est raconté aujourd'hui, c'est Saül qui a pris l'initiative. Les 3000 hommes dont on nous parle ont été réunis par le roi dans le seul but d'assouvir sa haine contre David. Les intentions de Saül sont très claires. Il mène personnellement les opérations de nettoyage. Il liquidera David dès qu'il le pourra. Mais le hasard renverse sa situation au profit de David, hasard ou providence. Pendant la nuit, il s'introduit dans le camp de Saül et trouve tout le monde endormi. L'occasion est trop belle, il faut le reconnaître. Sûrement Dieu est avec lui. Et Abishai, son garde du corps, fait du zèle. Il est tout prêt à en finir avec Saül. Et c'est là que David surprend tout le monde, y compris Saül qui n'en croira pas ses yeux, quand il aura la preuve que David l'a épargné. On peut se poser deux questions. Premièrement, pour quelle raison David a-t-il épargné celui qui lui voulait du mal ? Deuxièmement, pourquoi la Bible raconte-t-elle cet épisode ? Premièrement, pour quelle raison David a-t-il épargné Saül ? La seule raison qu'il invoque, ce n'est pas que nous sommes tous frères ou qu'il faut aimer nos ennemis, comme Jésus le dira plus tard, et que ce n'est pas beau de se venger. Sa raison, c'est le respect du choix de Dieu. « Je n'ai pas voulu porter la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. » Deuxièmement, pourquoi la Bible raconte-t-elle cet épisode ? Il y a certainement plusieurs messages dans ce texte. D'abord, visiblement, l'auteur veut dessiner un certain portrait de David. Respectueux des choix de Dieu, magnanime, refusant de se venger, et qui a déjà compris que ce n'est jamais la Providence qui livre les ennemis à notre merci. Ensuite, deuxième message, il n'est pas mauvais de faire savoir que le roi régnant est intouchable. N'oublions pas que ce récit a été écrit à la cour de Salomon, qui a tout avantage à ce que l'on retienne la leçon. Enfin, ce texte reflète une étape de l'histoire biblique, un jalon dans la pédagogie de Dieu. Avant d'apprendre à aimer tous les hommes, il faut commencer par se trouver quelques bonnes raisons d'en aimer quelques-uns. David épargne un ennemi pourtant très dangereux pour lui, parce que celui-ci a été en son temps l'élu de Dieu. L'ultime étape, ce sera quand nous aurons compris que chaque homme, partout, sur toute la terre, a reçu l'onction du Seigneur.
Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noëlle Tabu.
Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. L'idéal serait de dire ce psaume à deux voix, ligne à ligne, pour entendre le parallélisme des versets, cette sorte de balancement des lignes qui se répondent. Il a probablement été chanté par deux chœurs alternés. Premier chœur, « Bénis le Seigneur, ô mon âme. » Deuxième cœur, « Bénis son nom très saint, tout mon être. » Premier cœur, « Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. » Deuxième cœur, « Il ne nous rend pas selon nos offenses. » Et ainsi de suite. Autre caractéristique de ce psaume, cette tonalité très joyeuse de l'action de grâce. Si vous vous reportez à votre Bible, vous verrez que la phrase « « Bénis le Seigneur, ô mon âme » est répété en inclusion dans le premier et le dernier verset. Et parmi tous les bienfaits de Dieu, les versets qui ont été retenus pour ce dimanche insistent sur son pardon. « Car il pardonne toutes tes offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. » Voilà aussi l'une des grandes découvertes de la Bible. Dieu n'est qu'amour et pardon. C'est en cela qu'il est si différent de nous, si surprenant même pour nous. Il faudrait sans cesse avoir à l'esprit cette phrase d'Isaïe. « Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu, et mes chemins ne sont pas vos chemins. » Nous connaissons bien cette parole. Mais il ne faut pas oublier dans quel contexte elle est écrite. Je vous donne le texte plus large. Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifestera sa tendresse vers notre Dieu qui pardonne abondamment, car vos pensées ne sont pas mes pensées. Cette conjonction « car » donne le sens du passage, il me semble. C'est précisément sa miséricorde inépuisable qui fait la différence entre Dieu et nous. Au passage, il faut noter que ce texte date d'à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Mais bien avant même cette expression particulièrement forte chez Isaïe, on avait compris depuis bien longtemps que le pardon de Dieu est sans condition et qu'il précède toutes nos prières ou nos repentirs. Le pardon de Dieu, ce n'est pas un acte ponctuel, un événement, c'est son être même. Il reste que nous seuls pouvons faire la démarche libre d'aller recevoir ce pardon de Dieu et renouer l'alliance. Il ne nous forcera jamais la main. Donc, quand nous allons demander pardon, nous faisons la démarche indispensable pour entrer dans le pardon de Dieu. Mais ce pardon, il était déjà acquis. Cette découverte remonte très haut dans l'histoire biblique. Le prophète Nathan l'avait clairement dit au roi David, qui venait de se débarrasser du mari de sa maîtresse, Bethsabée. David n'avait pas eu encore le temps d'exprimer le moindre repentir, que le prophète lui avait déjà affirmé, je cite, « Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et si ce n'est pas encore assez, Dieu est prêt à te donner encore tout ce que tu voudras. » Ce qui est très exactement le sens du mot « pardon ». Étymologiquement, le mot « pardon », il faut séparer les deux syllabes, c'est le don parfait, le don par-delà l'offense, par-delà l'ingratitude. C'est l'alliance toujours offerte, malgré l'infidélité. Pardonner à celui qui nous a fait du mal, c'est continuer, malgré cela, à lui proposer une alliance, une relation d'amour ou d'amitié. C'est accepter de revoir telle ou telle personne, de lui tendre la main, de l'accueillir quand même à sa table ou dans sa maison. C'est risquer un sourire. Quand c'est plus grave, ce sera refuser de haïr, refuser de se venger. Pour autant, cela ne veut pas dire oublier. On entend souvent dire « je ne peux pas pardonner, je n'oublierai jamais ». Mais en réalité, il s'agit de deux choses complètement différentes. Le pardon n'est pas un coup d'éponge. Il n'est ni oubli, ni effacement. Ce qui est fait, rien ne l'effacera, en bien comme en mal d'ailleurs. Et il y a bien des offenses qu'on ne pourra jamais oublier, parce que l'irréparable a été commis. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait la grandeur et la gravité de nos vies d'hommes. Le pardon n'efface donc pas le passé, mais il ouvre l'avenir, il détache les chaînes de la culpabilité, il apporte la libération intérieure, on peut repartir. Quand David a fait tuer le mari de Bethsabée, rien n'a pu réparer le mal commis, mais David, pardonné, a pu relever la tête et tâcher de ne plus faire le mal. Le pardon n'est donc pas un coup d'éponge, mais un acte profondément libérateur. Celui qui est pardonné n'est pas un innocent, il ne sera plus jamais un innocent, mais il peut relever la tête. Sans aller jusqu'au meurtre, nos vies quotidiennes sont jalonnées d'actes plus ou moins graves qui ont semé l'injustice ou la peine. Quand nous pardonnons et quand nous sommes pardonnés, nous cessons d'être tournés vers le passé. Nous relevons la tête vers l'avenir. Dans notre relation à Dieu, c'est la même chose. Aucun de nous n'est un innocent, mais nous sommes tous des pécheurs pardonnés.
Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noëlle Tabu.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. » Ce texte s'inscrit dans la longue méditation de Paul sur la résurrection, celle du Christ et la nôtre. Il s'adresse à des chrétiens d'origine grecque qui voudraient bien posséder une bonne foi, une réponse claire, nette et précise sur la résurrection de la chair, le quand et le comment. Paul a commencé par dire, d'abord, la résurrection est un article de foi. Et si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, alors vous ne pouvez pas non plus croire à la résurrection du Christ. C'était notre lecture de dimanche dernier. Dans notre texte d'aujourd'hui, il est confronté à la question « Comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? » Or, Paul ne sait pas dire « Comment seront les ressuscités ?» La seule chose qu'il peut dire avec certitude, c'est que notre corps ressuscité sera tout différent de notre corps terrestre. Rappelons-nous qu'après sa résurrection, il arrivait que Jésus se fasse reconnaître par ses disciples. Mais on sait aussi que certains ne l'ont pas reconnu spontanément. Marie-Madeleine, par exemple, a commencé par le prendre pour le jardinier. Et les apôtres au bord du lac se sont posé des questions, ce qui prouve qu'il était bien le même et en même temps tout autre. Ce qui amène Paul à faire une distinction entre un corps animal et un corps spirituel. Cette expression « corps spirituel » devait évidemment surprendre des auditeurs habitués à la distinction classique chez les Grecs entre le corps et l'âme. Mais Paul est juif, et la pensée juive n'oppose jamais le corps et l'âme. En revanche, sa formation juive l'a entraîné à opposer deux sortes de comportements, celui de l'homme terrestre et celui de l'homme spirituel, qu'inaugurera le Messie. Dans tous les hommes, Dieu a insufflé un souffle de vie qui fait d'eux des êtres capables d'une vie spirituelle. Mais ce sont encore des hommes terrestres. Tandis que dans le Messie habitera l'Esprit même de Dieu qui dictera toute sa conduite, une conduite à l'image de Dieu. Et c'est là que Paul fait référence à la Genèse dans laquelle il lit la vocation de l'humanité. Mais n'oublions pas qu'il ne la lit pas de manière historique. Pour lui, Adam est un type d'homme, ou plutôt un type de comportement. Cette lecture est peut-être pour nous inhabituelle, mais il faut nous entraîner à lire les textes de création dans la Genèse, non pas comme le reportage des événements, mais comme des récits de vocation. En créant l'humanité, Adam est un nom collectif, Dieu l'appelle à un devenir inouï. Adam le terreux est appelé à devenir le temple de l'Esprit de Dieu. Attention, dans la Bible, la création n'est pas considérée comme un événement du passé. D'abord, la Bible parle beaucoup plus du Dieu créateur qu'elle ne parle de la création. Elle parle de notre relation à Dieu. Nous sommes créés par lui, nous dépendons de lui, nous sommes suspendus à son souffle. Ensuite, il ne s'agit pas du passé, mais de l'avenir. L'acte créateur nous est présenté comme un projet non encore achevé. La dernière phrase du poème de la création, au premier chapitre de la Genèse, parle d'une naissance. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Et qui dit naissance, dit appel à devenir. Un appel qui nous concerne tous, puisque Adam est le nom collectif qui englobe toute l'humanité. Et notre vocation, dit encore la Genèse, c'est d'être l'image de Dieu, c'est-à-dire habité par l'Esprit même de Dieu. Je cite, « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. » Mais dans la Bible, Adam est aussi le type de l'homme qui justement ne répond pas à sa vocation. Il s'est laissé inspirer par le serpent qui lui distille comme un venin la méfiance vis-à-vis de Dieu. Et c'est cela que Paul appelle un comportement terrestre. Jésus-Christ, le nouvel Adam, bien au contraire, ne se laisse souffler son comportement que par l'Esprit de Dieu. Et en cela, il accomplit cette vocation de tout homme, c'est-à-dire d'Adam. Et c'est le sens de la phrase de Paul. Frère, l'Écriture dit le premier Adam était un être humain qui avait reçu la vie. Le dernier, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Le message de Paul, c'est le comportement d'Adam mène à la mort, le comportement du Christ mène à la vie. Or, nous sommes tous sans cesse tiraillés entre ces deux comportements, entre ciel et terre. Et notre histoire individuelle, comme notre histoire collective, comme celle de toute l'humanité, est ce long chemin pour nous laisser de plus en plus habiter par l'Esprit de Dieu. Puisque Adam est pétri de terre, comme lui les hommes appartiennent à la terre, dit Paul. Puisque le Christ est venu du ciel, comme lui les hommes appartiennent au ciel. Et de même que nous sommes à l'image de celui qui est pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Cette perfection de l'image de Dieu en Jésus-Christ, les apôtres l'ont vue de leurs yeux sur le visage du Christ lors de la transfiguration.
Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Alors vous serez les fils du Dieu Très-Haut, car lui il est bon pour les ingrats et les méchants. On a envie de dire quel programme. Et pourtant c'est bien cela notre vocation. Si on relit l'ensemble de la Bible, elle apparaît bien comme le récit de la conversion de l'homme qui apprend peu à peu à dominer sa violence. Cela ne va pas sans mal. Mais Dieu est patient, puisque pour lui, comme dit saint Pierre, 1000 ans sont comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Dieu éduque son peuple lentement, patiemment, comme le dit le livre du Deutéronome. Je cite, « Tu reconnais à la réflexion que le Seigneur ton Dieu faisait ton éducation. » Comme un homme fait celle de son fils. Cette lente extirpation de la violence du cœur de l'homme est exprimée de manière très imagée dès le livre de la Genèse, dans l'épisode de Caïn et Abel. Au moment où Caïn est pris d'une folle envie de meurtre, Dieu lui dit « Le péché est tapis comme une bête à ta porte. Il veut te dominer, mais toi, domine-le. » Et à partir de ce premier meurtre, Le texte biblique montre la prolifération de la vengeance, ce qui revient à dire que dès les premiers chapitres de la Bible, la violence est reconnue, elle existe, mais elle est démasquée, comparée à un animal. L'homme ne mérite plus le nom d'homme quand il est violent. Les textes bibliques vont donc entreprendre la difficile conversion du cœur de l'homme. Dans cette entreprise, on peut distinguer des étapes. Je m'arrête sur la première. Œil pour œil, dent pour dent, c'est dans le livre de l'Exode. En réponse à l'effroyable record de Lamech, l'arrière-petit-fils de Caïn, qui se vantait de tuer hommes et enfants pour venger de simples égratignures, la loi oppose une première limitation, une seule dent pour une dent et non pas toute la mâchoire, une seule vie pour une vie et non pas tout un village en représailles. C'est la loi du talion, bien sûr. Elle représentait donc déjà un progrès certain, même s'il nous paraît encore maigre. La pédagogie des prophètes, ensuite, va sans cesse attaquer ce problème de la violence. Mais elle se heurte à une difficulté psychologique très grande. L'homme qui accepte ne pas se venger croit perdre son honneur. Les textes bibliques vont donc faire découvrir à l'homme que son véritable honneur est ailleurs. Il consiste justement à ressembler à Dieu, qui est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Et le discours de Jésus aujourd'hui est la dernière étape de cette éducation. De la loi du talion, nous sommes passés à l'appel à la douceur et au désintéressement, à la gratuité parfaite. Jésus insiste par deux fois, au début et à la fin, il dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, aimez vos ennemis sans rien espérer en retour. » Et du coup, la finale de ce texte nous surprend un peu. Jusqu'ici, si ce n'était pas facile, au moins c'était logique. Dieu est miséricordieux et il nous invite à l'imiter. Et voilà que les dernières lignes semblent changer de ton. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. La mesure dont vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Serions-nous revenus au donnant-donnant ? Évidemment non, puisque c'est Jésus qui parle. Tout simplement, il nous indique un chemin très rassurant. Pour ne plus craindre d'être jugé, contentons-nous de ne pas juger, de ne pas condamner les autres. Quant à la phrase « Votre récompense sera grand, vous serez les fils du Dieu Très-Haut », elle dit la merveille que découvrent ceux qui obéissent à l'idéal chrétien de douceur et de pardon, c'est-à-dire la transformation profonde qui s'introduit en eux. Parce qu'ils ont ouvert la porte à l'Esprit de Dieu, celui-ci les habite et les inspire de plus en plus. Et peu à peu, ils voient s'accomplir en eux la promesse formulée par le prophète Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur neuf, je mettrai en vous un esprit neuf, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. »
C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noëlle Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.